Tu es complètement con ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin.
C'est Radio Création, les directs.
Et à ma mère, maman, j'ai pas le bac, mais j'ai mon César. Merci beaucoup tout le monde, au revoir.
Je veux faire un bon gros battle de rap à l'ancienne avec un gars pour annoncer mon premier album, de l'Oscar à la Bicrap.
Radio Création, les directs.
Bonjour, ça va?
Bonjour, vous écoutez Culture, votre rendez-vous culturel proposé par Radio Création. Bonjour Maëlle, comment ça va?
Bah ça va super et toi?
Bah écoute, ça va très bien, un peu malade. Maëlle, tu connais la thématique du jour, nos chroniqueurs qu'on va d'ailleurs présenter dans quelques instants aussi, mais pas nos auditeurs.
Effectivement. D'ailleurs, attends Clarisse, avant de l'annoncer, on te fait un petit roulement de tambour pour t'accompagner.
Auditeur, auditrice sur Culture, pour vous, aujourd'hui, on parle d'amour.
Wouh
wouh. J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tes gestes en me serrant lentement, qui brillent les sensualités. Stop, un instant, j'aimerais que ce moment vite pour l'éternité.
Si je connais pas les paroles,
ouais, non plus.
Et oui, et oui. On parle d'amour aujourd'hui, mais pas que, puisqu'aussi on parle de femmes et de leur vision de l'amour, de la féminité, et surtout on leur rend hommage. Maëlle, tu peux peut-être présenter le programme ainsi que nos chroniqueurs.
Avec grand plaisir Clarisse. Donc au menu d'aujourd'hui, Alma, qui nous parle d'un film et de Adèle Exarchopoulos, pour pas en dire trop.
En effet, bonjour Maëlle, bonjour Clarisse et bonjour à tous et à toutes.
Ensuite, Elisa nous présente plusieurs artistes qui parlent de love, de sexe dans leur musique.
Coucou tout le monde.
Et enfin, on a Mathieu, le quota masculin du jour, qui nous fait découvrir une série réalisée par deux femmes.
Bonjour, très heureux d'être là, hâte d'écouter toutes vos chroniques.
Ouais, et toi Clarisse, tu nous parles d'un courant artistique, c'est ça?
Exactement Maëlle, et toi je crois que tu nous parles d'un livre dans quelques instants d'ailleurs, qui a été écrit par une grande dame, qui t'a récemment marqué, mais enfin tu me disais plutôt en off, en fait c'était au lycée, mais que tu t'en étais souvenue il n'y a pas très longtemps,
ouais, exactement, oui c'est ça, exactement.
Bah écoute, avant de te laisser commencer, est-ce qu'on prendrait pas un peu la température de chacun?
Bah complètement. Comment va l'équipe? Prêt? En forme?
Bah ça va, hein, un peu d'adrénaline quand même, le
ouais,
premier direct.
Ouais,
okay.
Un peu d'entrain,
un peu de tête,
un peu stressé.
Non, on est au taquet, hein, comme
désolé,
d'habitude. Hein.
Désolé si j'ai la voix de garou, c'est que en ce moment Paris c'est pas jojo au niveau de la météo.
Et toi Mathieu, comment tu vas?
Ah bah moi au contraire, ma météo intérieure est totalement aux antipodes de ce que Paris nous réserve. Ça me fait tellement plaisir d'être au micro avec un casting d'aussi grande qualité.
Et bah écoutez, si tout le monde est ready, alors c'est parti pour se jeter dans le grand bain.
Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui m'a profondément marqué. Donc c'est un livre écrit par une femme, pour les femmes, mais qui au fond parle à tout le monde. Donc ce livre, c'est Le lait de l'oranger de Gisèle Halimi. Donc c'est un roman, un récit puissant, intime et universel à la fois. Gisèle Halimi, vous la connaissez peut-être pour son roman Histoire d'une passion ou encore La cause des femmes, mais dans Le lait de l'oranger, elle se dévoile autrement. Elle raconte son histoire, celle de son corps, de ses doutes, de ses joies et de ses révoltes. Elle parle de ce que signifie être une femme aujourd'hui dans un monde où les attentes sont trop souvent contradictoires. Être forte, mais pas trop, libre, mais pas dérangeante, ambitieuse, mais pas égoïste. Bref, elle explore ses tensions avec une plume acérée, sans concession, mais toujours empreinte de tendresse. Donc, ce qui m'a frappée dans ce livre, c'est la manière dont Gisèle Halimi, elle aborde des sujets qui sont trop souvent restés tabous. Par exemple, la maternité, elle en parle sans tabou, sans idéalisation. Elle ose dire que c'est parfois difficile, voire douloureux, contradictoire. Elle ose dire que l'amour maternel n'est pas toujours un long fleuve tranquille et que c'est normal. Elle parle aussi du désir, de la sexualité, de la place du corps féminin dans l'espace public. Des sujets qui, encore aujourd'hui malheureusement, sont trop souvent tus ou jugés. Mais ce livre, ce n'est pas seulement un cri de révolte, c'est aussi une célébration. Une célébration de la sororité, de la solidarité entre femmes. Gisèle Halimi, elle rend hommage à celles qui l'ont précédée, à celles qui ont ouvert la voie, à celles qui ont lutté pour que nous puissions aujourd'hui avoir le droit de parler, d'écrire, d'exister pleinement. Elle rappelle que chaque voix compte, que chaque histoire mérite d'être racontée. Et c'est là, je crois, que réside la puissance de ce livre. Il ne s'adresse pas seulement aux femmes, il s'adresse à tous ceux et celles qui croient en la forme des récits, en la nécessité de se raconter pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre l'autre. Donc, il nous rappelle que la culture, c'est avant tout une affaire d'humanité et que les femmes, eh ben, en écrivant, en créant et en partageant des histoires, leurs histoires, contribuent à enrichir cette humanité. Alors, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à découvrir Le lait de l'oranger parce que c'est un livre qui fait du bien, qui fait réfléchir et qui fait surtout grandir. Parce que c'est un livre qui nous rappelle que oui, les femmes ont des choses à dire et que le monde a tout gagné à les écouter.
Waouh, merci.
C'était hyper beau.
Merci.
Quelle star, Gisèle Halimi.
Non, en vrai, je conseille réellement. Donc maintenant, on va laisser la place à Alma pour sa chronique ciné.
Exactement, merci beaucoup Maëlle pour ta chronique déjà. Donc moi, je vais vous parler d'un film qui m'a beaucoup marqué cette année. Donc on va dire que la Saint-Valentin, c'est bien beau, mais est-ce qu'on pense un peu aux gens qui ont soit regardé des films romantiques en pleurant devant, ou bien aux gens qui se sont bourrés la gueule avec leurs potes pour oublier leur vie sentimentale catastrophique. Après, fêter la Saint-Valentin, c'est stupide. Enfin, c'est qu'une fête commerciale, finalement. Je dis pas du tout ça parce que je suis célibataire et que mon ex s'appelle Valentin. Bon, je vais pas vous raconter ce qui s'est passé avec mon ex, parce que sinon on en a jusqu'à la tombée de la nuit. Je pense qu'on peut être tous ses témoins ici. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler d'un film, des films d'amour, parce que même si on m'a brisé le cœur, je reste quand même une amoureuse de l'amour. Cette année,
moi,
je suis une petite loveuse comme ça. Cette année, il faut quand même admettre qu'un film a beaucoup marqué les esprits, c'est L'amour ouf de Gilles Lelouch.
Et ouais.
Les critiques étaient quand même très très variées, ça allait du négatif au positif en 2 secondes. En allant le voir, je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut bien raconter en 2h40 de film. Enfin, on a compris que c'était 2 adolescents qui étaient tombés amoureux et allaient se retrouver 10 ans après.
Ouah, wow, chier quoi, le scénario.
Ouais, quoi de nouveau. En tant que tel, je trouvais qu'il n'était pas très original, mais faut quand même admettre que les plans et la réalisation, pour le coup, étaient particulièrement époustouflants. On pouvait passer d'un plan à un autre en comprenant parfaitement pourquoi. Il faut aussi avouer que l'actrice Adèle Exarchopoulos est incroyablement forte.
Ah, ça.
Quelle star et qu'est-ce qu'elle est. Waouh, elle est très impressionnante.
D'accord. Trop belle.
elle est très très belle.
Beauty privilège.
Ah bah, pour le coup, c'est sûr. Moi, elle m'a particulièrement marquée et à certains moments, je me voyais en elle. Vous allez peut-être me dire que c'est le but du cinéma, mais là, ça m'a plus marquée qu'autre chose. Beaucoup de critiques parlent d'une sincérité intense dans le film et je suis totalement d'accord. Adèle Exarchopoulos est une actrice qui a su s'imposer dans le monde du cinéma dès ses 20 ans avec le film... Désolée pour la prononciation, je ne sais pas si bien prononcé. Avec le film de Abdelatif Kechiche, donc La vie d'Adèle.
Bien prononcé.
Merci.
Ouais, je pense que j'aurais dit comme ça aussi.
Il fallait respirer un bon coup avant. Donc La vie d'Adèle en 2013, et donc ce film a notamment remporté la Palme d'Or du Festival de Cannes. Enfin, il y avait quand même Spielberg dans le jury. Elle a enchaîné les films comme Sibyl de Justin Trier ou même les séries comme Le Flambeau et La Flamme de Jonathan Cohen. Dans toute sa carrière, elle a remporté 2 Césars, dont celui de la révélation féminine en 2013 pour son rôle dans La vie d'Adèle. Et en 2024, elle remportera le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Je verrai toujours vos visages, un film de Jeanne Herry. Et qui sait, elle remportera le César de la meilleure actrice pour son rôle de Jackie dans L'amour ouf lors de la 50e cérémonie qui aura lieu le 28 février prochain. Tout ça en tout cas pour vous dire que Adèle Exarchopoulos est une actrice qui s'impose dans tous les genres de cinéma. Elle peut passer d'une comédie à un drame en un claquement de doigts. Cependant, elle reçoit beaucoup de haine sur les réseaux sociaux parce que, bon, premièrement, c'est une femme, bien évidemment, qui est exposée sur les écrans, et deuxièmement, parce qu'elle a une voix plutôt grave. Attention, c'est super intense comme voix. Donc, oh my god, c'est hyper bizarre et c'est vraiment pas beau pour une femme. Bref, enfin, à ce que je vois, ça ne lui a pas porté vraiment préjudice pour sa carrière, au contraire. Enfin, elle a quand même fait le doublage de Ennui dans Vice Versa du côté américain.
C'est vrai.
Donc voilà, ça m'a beaucoup fait plaisir de vous parler de ça. Un petit problème, on peut chanter tous ensemble.
C'est vrai.
I hate to face. Voilà, exactement. On va faire The Voice, je crois, on va faire la voix.
Dédicace à tous mes potes célibataires. Après l'amour un jour.
T'es pas concernée, Clarisse.
Non.
Voilà, c'était un film qui m'a beaucoup marquée, et notamment parce qu'il y avait quand même Adèle. Et je trouve que c'est important de le souligner, mais aussi parce que c'est un film qui parle d'amour. Mm-hmm. Et bon, faut aussi avouer qu'après avoir vu Le Grand Bain en 2018, j'avais quand même beaucoup d'attentes envers Gilles Lelouch.
C'est vrai que
c'est chance d'inviter tout ça un peu en mode oula, pourquoi tu fais un film d'amour alors que t'as fait un Grand Bain hyper bizarre. Donc qui sait, on le vivra ce foutu amour ouf quoi.
Aïe.
Vous en pensez quoi?
De l'amour ouf
de l'amour ouf
de survivre de notre putain d'amour ouf.
Bah je pense un peu les deux hein.
Un peu des deux.
Toi tu le vis déjà ton amour ouf de toute façon.
Oui, ça pour le coup je peux en parler mais je vais pas en parler quand même, je vais pas prendre le monopole. Pour le coup je l'ai pas vu l'amour ouf.
Ah ouais ?
Parce qu'en fait je fais partie de ces gens de quand j'entends trop parler d'un film.
Oui, non, je suis d'accord.
J'ai peur, j'ai mis beaucoup d'attentes envers ce film.
Ouais, je comprends.
Et souvent je suis déçue du coup parce que j'avais beaucoup d'attentes.
Parce que je l'avais vu au Festival de Cannes.
Oh là là, c'est vrai que t'as fait un voyage petit Cannes.
Avec la fac, du coup, je suis allée au Cannes et du coup, je l'ai pas vu quand il est sorti pour vrai à Paris.
En avant-première.
En avant-première sur le tapis rouge, voilà.
Hein. Bah, moi, en vrai, j'avais pas réellement d'attentes. Je savais qu'il allait peut-être marcher, c'est sûr. Mais pour le coup, moi, je l'ai regardé parce que en fait, les deux icônes littéralement, genre Françoise Civil et Adèle Exarchopoulos, pour moi ça valait que le coup et j'aime bien Patrick, enfin Zaidi là, oui c'est ça, ouais. Bah, il joue dedans et je le trouve un peu drôle donc un peu
mais, marrant, ce
mais mec, ouais du coup ça me donnait envie et moi pour le coup quand je l'ai vu, je l'ai vu un peu avant la hype, enfin dès qu'il est sorti il y avait beaucoup d'attentes donc j'avais en vrai au final j'avais pas d'attentes et j'ai vraiment passé un trop bon moment et ça donne vraiment trop envie d'être amoureux même si pour moi l'histoire en tant que telle en fait c'est pas réellement la meilleure histoire d'amour du monde.
Non pour le coup c'est hyper pas du tout
hyper toxique aussi de ce qu'on m'a dit.
Je dirais pas toxique, mais je dirais genre en mode c'est commun d'avoir une histoire comme ça, je trouve. Genre peut-être t'as un amour de jeunesse, tu le retrouves 10 ans après, enfin ok, c'est un ça y est quoi, tu vois.
Oui.
Lâche ça. Ça
y est, tu trouves ça commun toi.
Ouais.
Tu trouves ça commun d'avoir.
Un peu, je trouve. Après moi, j'en ai parlé avec mon frère du coup, et du coup lui, il a rencontré une fille, etc. Enfin, ils sont plus ensemble aujourd'hui, tu vois, mais ils se sont rencontrés au lycée. 10 ans après, ils se sont remis ensemble, tu vois.
Ah ouais, donc, dédicace au frère d'Alma.
Salut Dama, si tu fais ça. Là.
Non, moi je te parlais de la toxicité plutôt entre les personnages dans l'histoire.
Ah oui,
que
le
truc de 10 ans.
Non, je suis d'accord un peu avec toi pour le coup. Toxicité.
Bah en fait, ce qui sauve.
C'est
aussi,
un peu normalisé, je trouvais.
Ouais, exactement. Et puis ce qui sauve le film, c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais c'est vrai que en soi, l'histoire, elle est assez connue, banale. Enfin, on a déjà vu ce type d'histoire. Mais c'est vraiment, moi je trouve que le point vraiment trop bon, c'est vraiment la réelle. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait des plans qui sont encore dans ma tête. Et en vrai, Billy Idol, j'adore ce mec, tout simplement. Et cette chanson, quand elle est revenue, je l'avais un peu oubliée. Et c'est vrai que réécouter ce son-là, je sais pas, ça m'a fait du bien. Un peu ma Madeleine de Proust au final, quoi. Donc, mais non, moi j'ai adoré, franchement.
Non, mais surtout qu'il y a une. Tu sais, Gilles Lelouch, il a créé son film. Enfin, il a ce film, pardon, dans la tête depuis genre 17 ans.
Ouais, c'est ça.
Et je pense que c'est un peu qui est beau. Donc, voilà.
Ouais.
Non, en vrai, par contre, moi je me disais, l'amour ouf, est-ce que c'est celui qui est genre ultra passionnel ou si c'est celui qui juste
et banal,
se passe bien, bien et s'équilibre bien.
L'amour sain.
L'amour sain, finalement.
On va faire un film.
L'amour sain.
on l'écrit quand
je suis assez d'accord avec toi.
Deuxième film de Gilles Lelouch, l'amour sain.
La trilogie. L'amour sain, l'amour ouf et l'amour toxique. Ah, mais l'amour ouf, c'est déjà toxique.
Pour moi, il va se redoubler.
L'amour mort.
Sans le décès. Sur le décès.
Comment tu
vis bon, c'est super joyeux.
Veuf et tout.
Genre. Ouais.
Bah écoute, merci Alma.
Bah merci,
merci
très plaisir.
Merci
beaucoup. Chronique. Je crois qu'après, on a rendez-vous avec Elisa.
Vous écoutez Culture, votre rendez-vous culturel sur Radio Création.
Et bah moi aujourd'hui, je vais vous parler des chansons d'amour, de l'amour en musique. Tu sais, ces sons dont tu as besoin pour continuer à aimer, pour te réparer, te réconforter ou même te souvenir. Je trouve que la musique, elle a une manière unique de transmettre des émotions hyper deep. Et parfois, une mélodie suffit pour nous rappeler une personne, un moment ou un souvenir. Et pour moi, c'est Birds of Feather de Billie Eilish.
Wow.
All right.
Oh,
non, en vrai, elle est trop trop cool. Hein.
Ah, elle est très bien. L'hymne de mon été.
Ouais, vraiment.
Je sais pas chanter.
T'as enlevé avant le refrain, je te déteste.
Ah, bah oui, mais attends, on peut pas tout laisser. Faut laisser découvrir les chansons.
Sinon, on va se faire démonétiser.
Non, mais tu vois, par exemple, cette chanson, elle me fait penser un peu à l'amour qui rime avec. Toujours.
Oh là là,
et
là
ouais. Non, sérieusement, elle me fait penser à la personne que j'aime, avec qui je partage mes jours. Elle m'aide à me rappeler l'amour que l'on se porte, bande de jaloux.
Un peu quand même. On est 3-2 finalement.
Et ouais, ma star.
Non, vous êtes 3-2, hein. Moi aussi je.
Bah oui, bah elle.
Ah putain, c'est vrai.
Mais oui, moi je suis super amoureuse.
Pardon, on t'interrompt.
Non, mais je vous en prie, allez-y. Hein. Non, en vrai, cette chanson, elle est vraiment superbe. Et puis voilà, c'est Billie, elle pose ses sentiments comme ça, sans honte. Et n'oublions pas que depuis des siècles, bah, la chanson, elle adore chanter les amours. Mais il faut bien avouer que c'est les hommes qui ont souvent le beau rôle. Ils désirent, ils flirtent, ils séduisent et ils rejettent. Quand ce sont les femmes qui chantent l'amour, elles se retrouvent souvent à attendre leur prince charmant homme, wow. à savourer d'avoir été choisies ou à pleurer les infidélités et abandons de leurs amants. Céline se met quand même en quatre dans « Pour que tu m'aimes encore hein. ».
Quelle histoire, Céline, là, voyons. Quelle histoire, c'est une Dion. J'adore, c'est une Dion, là.
Excuse-nous, Lorraine.
Tu iras ou tu iras.
Non, mais c'est plutôt rare qu'en chanson, comme dans les autres formes d'art, qu'elles expriment ouvertement leurs désirs et leurs plaisirs, comme les hommes sont invités à le faire, sans détour, à la première personne et sans honte. Enfin, il y en a une qui n'est pas timide pour chanter ses sentiments, c'est Chappell Roan, dans son titre, excusez-moi de l'anglais, Red Wine Supernova.
Bon, parfait.
All right.
Yeah. C'est tous ensemble.
Ok, let's break it up now. Non mais sa chanson, c'est l'excitation et la magie de tomber amoureux. Ici d'une autre fille. Et oui, ça existe. C'est à la fois drôle et audacieux, comme si on vivait une soirée en plein flirt dans l'ambiance d'un bar. En gros, l'énergie d'un moment où deux personnes se découvrent et se jouent l'une de l'autre sans se prendre trop au sérieux. Et son désir, elle le cache pas et ça fait plaisir. Je la cite: You just told me, want me to fuck you, baby. I will cause, I really want you.
All right.
Et il y a une autre artiste qui ne cache pas son désir et l'exprime à travers une balade poétique et sexy. C'est évidemment Juliette Armanet et son titre Brûler le feu.
Une petite française. Et...
On va brûler le feu. Brûler le feu. Brûler le feu.
Vous entendez pas, Radio Création,
oui. All right.
Vous êtes chaud.
On est en fire.
Chaud d'amour.
Et bah tu vois, brûler le feu, bah c'est l'éloge, c'est un éloge du désir, des passions fortes, pas pour ce qu'elles ont de destructeur, mais pour ce qu'elles ont de créateur. Parce que oui, arrêtons de glamouriser les relations toxiques, nom d'un chien. En mettant en avant des schémas d'amour tourmentés. Les chansons peuvent parfois envoyer un message faussé, celui que le véritable amour implique nécessairement des souffrances et des sacrifices. C'est un grand non, évidemment. Vous comprenez que l'amour, c'est l'essence de la création musicale. L'amour, ça nous inspire. Évidemment, il y a tellement d'autres chansons magnifiques que je n'ai pas développées. Je pense aux classiques Edith Piaf, La vie en rose, Hymne à l'amour, à Barbara, Dis quand reviendras-tu, à Dalida, un peu border avec son Il venait d'avoir 18 ans.
Sorry.
Je parle là de l'amour sous le prisme du romantisme, évidemment, car il existe tellement de sortes d'amour et des milliers d'autres titres que je n'ai pas cités ici. Je pense à Cella de Lauryn Hill pour sa fille, à California, de Joni Mitchell pour sa terre ou encore à Valérie d'Amy Winehouse pour sa pote. Mais j'aimerais clôturer ma chronique sur l'une des plus belles chansons d'amour du monde. Et je pèse mes mots, mes amis, At Last d'Etta James.
Ah ouais, c'est vrai qu'elle est très belle, ça.
Elle est magnifique.
Elle est hyper carrée.
On met la part
très haut.
Et oui, Etta James, cette grosse queen, of course.
All right.
Moi, j'ai une question pour vous. All right. Est-ce que le plus bel outil de déclaration d'amour ne serait pas la musique?
C'est une question
compliquée. Plus belle. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de manières de dire l'amour. Mais c'est vrai que dire avec la musique, quand même, c'est une très très belle manière. Moi, justement, tu as cité une musique tout à l'heure de Hymne à l'amour de Edith Piaf. Et moi, je l'ai découvert récemment, il y a, je dirais, un mois de ça. Et en l'écoutant, j'ai pleuré. Vraiment. Mais quand même, moi, je suis trop sensible. Mais
on n'est jamais trop sensible.
Trop de sentiments.
Persensible.
En fait, je pense que d'une certaine manière, la musique, c'est vraiment ce qui peut vraiment nous connecter. Et, parce qu'il n'y a pas forcément. Tout le monde ne peut pas être fan de lecture, tout le monde ne peut pas être fan de dessin, de peinture, de plein de choses. Et je pense que l'élément commun, c'est vraiment la musique. Et donc, ça peut être le plus bel outil pour certaines personnes. Et moi, ça en fait partie. Mais enfin, voilà.
Ouais. Je suis un peu d'accord avec toi parce que je pense que même si des fois, tu n'as pas envie de montrer nécessairement tes sentiments et que tu n'y arrives pas, tout simplement, en fait, la musique, ça peut vraiment beaucoup aider. Il y a beaucoup de chansons, enfin, tu sais, comme Il y a l'amour, même la. Edith Piaf, etc., les chansons que tu as citées, je trouve que c'est des très belles chansons pour dévoiler ton amour à la personne, quoi. Mm-hmm.
Bah ouais, et tu vois, je me dis, il y a des chansons, aux limites, qui se répondent des artistes. Je pense à Michel Berger et France Gall.
Ah oui, c'est franchement, c'est vrai.
C'est vraiment c'est magnifique. Vrai. Enfin, dans Ma Déclaration, par exemple, de France Gall, je sais pas, j'ai vu des souvenirs avec toi, des voyages avec toi, c'est trop beau.
Ouais, c'est vrai.
Et même, c'est vraiment des belles déclarations d'amour aussi. Bon. Je vais citer un homme, mais je l'adore, c'est Francis Cabrel, ce génie. J'adore ce gars avec sa moustache, là. Non, franchement, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. C'est un classique, c'est limite un peu ringard, mais en fait, ça fonctionne, c'est trop beau, c'est trop stylé. T'imagines, on t'écrit ça.
Ouais. Et voilà. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'avec la musique, tu peux te permettre de dire des choses hyper puissantes et sans
dévoiler.
Ouais, exactement. Et ça fait pas peur, en fait. C'est que il y a tout un truc qui t'entoure qui fait que tu peux vraiment dire des choses avec beaucoup de passion et ça sera pas tout match.
Tu sais, c'est la petite notif que tu ressens. Ouais, cette musique m'a fait penser à toi.
Ouais,
voilà, grave. Tu vois, c'est une petite bâton,
mais tu fais du bien.
Moi, je la ressens tous les jours.
C'est très beau, ça. Ouais, une sensibilité pour toi et tout.
Et par contre, on se rend pas compte du nombre de chansons d'amour, par contre, qui parlent d'amour toxique et nous on est en train de chanter en mode alright genre Love on the Brain de Rihanna. En vrai, elle est magnifique, la chanson.
Elle est très toxique.
On croit trop que c'est une chanson de slow et tout machin, mais en fait ça parle juste d'un amour destructeur et tout, tu vois.
Rien à voir, mais ça me fait penser à une chanson de Police,
Every Breath You Take.
Cette chanson, moi j'ai toujours cru que c'était une chanson d'amour et en fait j'ai appris récemment, c'est mon anecdote favorite ever que je raconte tout le temps au travail, tout le temps. Et en fait, c'est l'histoire d'un stalker qui suit une femme, une jeune femme. Every breath you take, enfin, c'est vraiment,
every move you make.
Ouais, c'est ça. Et je pensais que c'était vraiment
I'll be watching you up in
the...
Je serai en train de te regarder.
Et du coup, quand tu connais, c'est ça. Et quand tu connais la chanson, en fait, le truc derrière, en fait, ça prend d'autres proportions. Ouais. Donc en vrai, quand t'écoutes des choses, tu peux assimiler à certaines choses que toi tu ressens. Et en fait, c'est pas du tout ce que la personne voulait te faire ressentir, en fait. Enfin, ça partait pas de ce postulat-là, quoi.
Bah, je vais plus l'écouter de la même manière maintenant.
Ah ouais, tu vas voir, ça change totalement, vraiment.
Là, je vais où ?
J'ai détruit quelque chose en toi, Alma.
Merci beaucoup, Maëlle.
Bah écoutez, moi, je vous propose que tout de suite, on retrouve notre cher Mathieu, notre quota masculin, pour sa petite chronique du petit écran générique. Hein. I was working hard at a New York job, making dough, but it made me blue. Yippee! Yeah. And so I decided to move to West Covina, California. Brand new pals and new career.
Co-girl Eliza.
But that's not why I'm here. She's the crazy ex-girlfriend. What? No, I'm not. She's the crazy ex-girlfriend. That's a sexist term. All right. She's the crazy ex-girlfriend. Can you guys stop singing for just a second? She's so broken inside. The situation's a lot more nuanced than that. C-R-A-Z-Y. Okay, we get it. Crazy
ex-girlfriend. Et c'était le générique de la saison 1 de Crazy Ex-Girlfriend. Ce n'est jamais facile de recommander une série. Déjà parce que c'est pas évident de ne pas divulgâcher, comme disent les gens de droite. Parce qu'il existe tellement de séries, pour certaines bien faites, qu'on a tous des listes d'attentes, d'injonctions à regarder. Quand on m'a donné l'opportunité de parler d'un objet culturel autour de l'amour, j'ai immédiatement pensé à Crazy Ex-Girlfriend. Crazy Ex, c'est une série américaine produite entre 2015 et 2019, coécrite par deux femmes, Aline Brosh McKenna, la réalisatrice entre autres du Diable s'habille en Prada, et Rachel Bloom, jusqu'alors obscure comédienne et écrivaine de télévision.
Wow.
Rachel Bloom, qui non content de coécrire la série, tient également le rôle principal dans lequel elle chante et danse sans doublure, comme chacun des actrices et acteurs du show, puisqu'il s'agit d'une comédie musicale.
C'est cool de découvrir une petite série musicale.
Merci.
Mathieu, pardon, je t'ai interrompu.
Non, t'inquiète, mais c'est vraiment un genre qui est passé en désuétude. Parce que ça demande des acteurs et des actrices vraiment de qualité, très formés et qui sont en général contentés à un métier de scène. Bon. Mais pour revenir à notre sujet, malgré des audiences pas ouf pendant la majorité de sa diffusion, probablement parce que c'est une comédie musicale qui parle d'amour et de santé mentale d'un point de vue féminin, il s'agit d'une des séries de la dernière décennie des plus primées et saluées par la critique pour la qualité de son écriture et du jeu d'acteur. Je vous fais en gros la base du plot. L'héroïne est une avocate new-yorkaise en dépression qui un jour croise par hasard un ex de colonie de vacances, ce qui la ramène à une période de sa vie où elle était heureuse. Elle décide alors de tout foutre en l'air et de déménager en Californie, dans la ville natale de cet ex, qui n'est pas au courant, pour tenter d'être heureuse à nouveau. Crazy Ex, c'est une révolution du petit écran américain, donc de notre petit écran à tous finalement. un ovni au milieu de cet océan de production pour le male gaze, par le male gaze. C'est la série qui a pris sur elle de confronter tous les tabous des conditions de la femme et du romantisme qui n'avaient jamais été soulevés avec autant de cru et d'honnêteté, sans peur d'heurter la sensibilité masculine qui aurait préféré les laisser sous le tapis. Tous les tabous, donc, comme les injonctions culturelles et esthétiques ou les problèmes de santé mentale. Une chanson sur le sexe pendant les règles ? Il y en a une. Une chanson sur le fait que c'est pas un big deal de prendre des antidépresseurs ? Il y en a une. Une chanson sur la haine de soi et le besoin de s'insulter ? Je voulais garder pour la fin.
Oh là là !
Malgré une profondeur et une nuance accordée à la construction des personnages comparables à Twin Peaks, et malgré la gravité de nombreux thèmes qu'elle explore, Craig ZX parvient pendant les 4 saisons à garder une atmosphère légère, un peu à la The Office, et ce grâce à l'humour, à la créativité des chansons et des chorégraphies, à une écriture pleine de compassion pour ses personnages et naturellement inclusive, mais surtout à mon sens grâce à la qualité du casting. Je l'ai voté plutôt, notamment grâce à la relance de Clarisse. Tous les interprètes viennent du monde des rideaux et des planches. Tous sont des acteurs, chanteurs et danseurs chevronnés. Et promis, vous verrez la différence avec les acteurs sélectionnés au faciès qu'on retrouve dans la majorité des productions télévisuelles. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la série gratuitement sur le site Stremio, S-T-R-E-M-I-O. Et pour ma part, je vous laisse avec un extrait de la chanson du show la plus écoutée sur Spotify, You Ruined Everything, You Stupid Bitch.
Wow.
Well, Rebecca, you've done it now.
Yeah, you guys know this one.
Karma's come to tap you on the shoulder. All that lying that's been festering, plus breaking and entering, is coming now to crush you like a boulder.
Wow.
Yeah.
On est chez Anglais.
Et vous,
oh, excusez-moi,
les filles,
la voix.
Et vous les filles, je voulais vous demander, est-ce que dans les dernières décennies, vous avez une série ou même de manière générale qui vous a marqué sur l'amour, qui a peut-être transformé votre vision de l'amour et vous a permis de grandir là-dedans?
Bah moi j'en ai une si vous voulez, là qui me vient en tête, c'est Normal People.
Ah ouais, ouais.
Enfin, l'adaptation du livre, du coup, parce que c'est un livre. Okay, ouais. Mais Normal People, ça m'a redonné. Je sais pas, en fait, j'ai trouvé que déjà ça remettait le corps à sa juste mesure dans les relations en général entre deux individus sexuels, tu vois. Et je trouvais que c'est ce qui manquait ces dernières générations aussi, de montrer que même si t'es pas avec la personne, genre en couple ou autre, le désir il est quand même là, il y a une part de sentiment un peu légère qui est là aussi.
Je suis très d'accord avec toi.
Et je sais pas, je trouvais ça bien amené, même si en vrai, quand, avec un recul, leur relation est extrêmement toxique au tout début, tu vois, quand ils sont en train de se découvrir. En même temps, l'amour adolescent, je pense que c'est un peu ça aussi, malheureusement.
Oui,
parce que tu découvres ta sexualité, tu découvres aussi tes propres émotions.
T'apprends à te connaître aussi.
Voilà, et en fait, c'est plus la fin de leur relation où je me suis dit, oui, ok, des fois tu peux aimer très fort, mais c'est toujours ton intérêt qui doit primer. Et ça, c'est un truc qui m'a été découvert par cette série aussi, quoi.
Alors, j'ai pas vu, tu disais le corps à sa juste mesure. Qu'est-ce que tu voulais dire par là?
Bah, tu sais, on mord. On mord. J'ai un truc avec la mort aujourd'hui, excusez-moi. On montre le corps, mais brut. Genre, tu sais, c'est comme tu vas dans un musée, tu vois un corps nu, et c'est juste un corps nu, c'est pas un corps genre. Un objet sexualisé, tu vois. Ouais. Et je trouvais que c'est. Et en fait, c'est eux, dans leur regard, qui montrent qu'il y a ce désir, tu vois.
D'accord, ok.
Voilà, c'était ça que je voulais dire.
Merci.
Bah, moi, je suis pas très fan des séries. Enfin, je regarde pas beaucoup de séries.
Et
donc, je regardais beaucoup de films. mais non, en vrai, moi, je dirais, bah, du coup, déjà, c'est ma série préférée, mais je dirais Grey's Anatomy. Vous allez me dire qu'il y a pas vraiment d'histoire d'amour, mais en
non,
vrai,
mais
je
toi, c'est les blouses blanches en fait. Ça,
ouais,
un truc que ça grise chez toi. Là.
Si, tu vois,
attends, il y a pas d'histoire d'amour dans Grey's Anatomy, non, mais il y en a à chaque épisode.
Il y a que ça, tu vois. Mais les gens qui connaissent pas vont dire non, c'est qu'un truc de médecin, mais il y a pas du tout.
Alors, c'est pas amour,
c'est parallèle, c'est une anecdote ça avec son médecin. Non, mais vraiment, c'est je trouve ça très très beau. Et même, tu vois, les premiers amours, etc., et même. Enfin, tu rencontres ton mec au travail, enfin, tu vois, tu fais des opérations avec lui. Enfin, même si j'ai la phobie du sang, j'adore cette série, mais.
Tu t'engueules avec ton mec, t'es en train de faire une opération.
Voilà,
tu
vois,
passe-moi scalpel, en fait.
Tu me fais chier, là, t'as pas rangé tes chaussettes, en fait.
Et là, ça se rejoint dans la chambre de garde et.
Ça charbonne dans les lits superposés.
Moi, je me souviens juste de ça de Grey's Anatomy, en vrai.
Moi, c'est un peu tellement pas.
Tu viens ça aussi, quoi.
Non, mais c'est très beau. Enfin, moi, je trouve que Grey's Anatomy, pour le coup, tu vois, ils arrivent à faire le juste milieu entre le travail et l'amour.
Ouais.
Et je trouve ça en vrai incroyable parce que y en a beaucoup qui arrivent pas à travailler ensemble dans la vie de tous les jours, même si ce sont les films, dans les séries, au quotidien. Et m'hérédité des règles, enfin désolé, mais
en vrai ça me fait penser à un truc, c'est que Grey's Anatomy c'est une série comme qui passait sur TF1 et quand on était moi j'étais jeune quand ça passait,
moi j'avais pas de télé, donc
et c'était la première fois que j'avais une représentation d'un couple lesbien
parce c'est vrai, c'est
nul d'ailleurs ce couple, mais je suis pas de souvenir de ça, mais ça m'avait marqué.
Ils sont trop bien,
ils sont trop mignons.
Non, mais ils
sont trop bien, en l'occurrence, pardon.
Manque de queerness, quoi, je trouve.
C'est vrai que.
Elles étaient médecins dans des bébés, là.
Wow. Non, il y en a une qui est
médecin. Des médecins dans des bébés. Non.
Il y en a une qui est médecin pour des bébés et l'autre qui est médecin pour les genoux.
Ah, si, il était trop bien.
Elles sont trop mignonnes.
Non, mais elles sont kiki, mais je trouve que ça a manqué de queerness. Bon, ça, c'est un avis autre, on en parlera pour un autre épisode culture.
Ouais,
elles
sont
queer.
Ouais, c'est vrai. Moi, en fait, tout à l'heure, du coup, Mathieu, avec ta question, ça m'a fait. Je me posais des questions et en fait, j'avais oublié. Ben non, puisqu'en fait, si. Moi, quand j'étais.
Ferme ta bouche.
Parce que je pensais à des séries françaises, américaines et tout, et en fait j'ai oublié que j'étais une giga fan de K-drama, quoi. Alors que c'est
tellement pas.
Et j'ai aussi beaucoup regardé et lu des shoujo. Enfin, j'aime trop la culture japonaise et tout. Et c'est vrai que moi j'ai baigné dans les K-drama, vraiment. Ça c'était mon truc.
Okay.
Et c'est pas du tout la même représentation de la romance qu'en France ou aux États-Unis quand même. Okay. C'est beaucoup plus lent. Rien que le fait qu'ils se donnent la main, ça crée une émulsion chez toi, surtout quand t'es au collège.
Ça n'existe pas en France.
Non, vraiment. Franchement, c'était.
Il y a une société avec plus de tabous, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Plus
et puis,
de pudeur.
Ouais, vraiment. C'était... Ouais. Oui, c'est ça. Mais c'est plus lent et tu prends plus le temps d'apprécier des petits gestes et tout. Enfin, moi, quand ils s'embrassent trop vite, je fais mais waouh, wow, elle est où la pudeur là-dedans. Quand je regarde une série américaine, je suis alors ils s'embrassent quand. C'est vraiment pas du tout la même ambiance. Mais ouais, non, moi je suis une grosse fan. J'étais biberonnée au K-drama. J'étais une grosse amoureuse de l'amour. Je le suis toujours, hein, mais ça. Vraiment, ça c'est trop bien. Vraiment, c'est ça mon modèle, je pense.
Et est-ce que t'as un nom d'une
série
considérais par-dessus les autres?
Non, mais je pense à une série qui s'appelle 2521. Et en fait, c'est une fille qui fait de l'escrime.
C'est moi.
Et moi. Et non, mais c'est super bien amené parce que du coup, ça parle des JO à une certaine époque. Oui. Et puis de faire un sport de combat, de l'escrime. Et il y a une romance là-dedans qui est super bien amenée, qui est trop belle. Et les acteurs, ils sont super. Je vais citer Nam Juk, qui est super, et avec Kim Tae-rin aussi, qui a joué dans... comment ça s'appelle déjà? C'est un film avec... qui a fait une romance queer aussi. Enfin, j'ai plus le nom en tête, mais c'est une super actrice, et trop bien joué, et trop beau plan, c'est trop beau, et la musique, super. Franchement, c'est super.
Moi, je voulais juste faire une petite reco, rapidement.
Vas-y.
C'est Fleabag de... Franchement, ça monte... c'est trop bien. Et elle est incroyable, la série, et ça montre l'univers, enfin, ce qu'il y a dans la tête d'une trentenaire, où c'est le gros bordel. Et franchement, c'est hyper drôle si vous aimez l'humour british, si vous aimez l'humour absurde. Et voilà, vous irez la découvrir. Et j'adore, et franchement ça monte un truc, enfin ça monte l'amour magnifiquement, et que ce soit amical, romantique, etc., même familial.
C'est hyper drôle.
Complètement d'accord.
All right.
Et iconique.
Moi j'ai dit déjà, c'était Normal People.
C'est vrai, pardon, my bad.
Merci Mathieu.
Merci
beaucoup.
Pour cette chronique efficace. Putain, en tout cas, ça m'a donné envie d'aller le voir. Voilà.
Moi, je connaissais pas du tout cette série, tu vois, pour le coup.
Donc, parfait.
C'est vraiment une série qui est passée sous le tapis. Il n'y a pas eu de distribution en France du tout. Donc,
ah, ok.
Ouais, bah, c'est bon, c'est okay.
Donc, allez voir.
On va venir la voir, tous ensemble.
Allez tous voir. Et écoutez, on va passer à la prochaine chronique. Enfin, la dernière même, que dis-je.
Vous écoutez Couture, votre rendez-vous culturel sur Radio Création.
Imaginez. Fermez les yeux, du coup, imaginez.
Pardon, fermez les yeux.
Amsterdam, Saint-Valentin, les canaux, l'ambiance feutrée. Et moi qui, toute guillerette, entraîne mon amoureuse au musée Van Gogh. Ou plutôt l'inverse d'ailleurs. À l'intérieur, les couleurs explosent, les autoportraits nous fixent. Et puis, en flânant de salle en salle, un constat s'impose que des hommes. Van Gogh, Rembrandt, Vermeer, mais où sont les femmes ? Et ce n'est pas la première fois que je me fais cette remarque. Alors pour vous, aujourd'hui, je vais parler d'un courant qui a marqué une génération de peintres amoureux de l'amour, le romantisme. On nous parle souvent de Delacroix, de Géricault, et pourtant, le romantisme en peinture ne serait pas complet sans les contributions passionnées des femmes talentueuses.
T'as raison, Clara, dis-leur.
Prenons Marie-Denise Villet. Parisienne jusqu'au bout des pinceaux, elle capture avec une sensibilité rare l'intimité et la profondeur des émotions humaines. Son œuvre la plus célèbre, Jeune femme dessinant, longtemps attribuée à Jacques-Louis David, dévoile une jeune femme absorbée dans son art, le regard rêveur, comme si elle esquissait les contours de son propre avenir amoureux. Cette toile, exposée au Metropolitan Museum of Art de New York, est une ode à la passion créative, à la quête de soi et surtout à l'amour de soi. Et que dire de notre chère Rosa Bonheur ? Elle commence dans le sillage du romantisme, fascinée par la puissance des émotions, mais très vite elle prend un virage. Un virage à cheval, car Rosa, c'est la femme qui a troqué les scènes théâtrales du romantisme pour la force brute du naturalisme, comme la plupart de ses pairs. Son chef-d'œuvre, Le marché aux chevaux, expose avec une précision magistrale la vigueur et la beauté des chevaux, symbolisant la liberté indomptable. Et la sienne n'est pas que picturale. Pour obtenir l'autorisation de porter un pantalon, elle doit demander une permission spéciale à la police. Son atelier est un zoo miniature. Elle vit avec sa compagne, elle se moque des conventions. Rosa Bonheur, c'est l'amour sous une autre forme, celui du grand air, du mouvement et surtout de l'indépendance. Quant à Eugénie Latil, bien que les archives sur sa vie et son œuvre soient moins abondantes, il est essentiel de rappeler que de nombreuses artistes talentueuses ont été éclipsées par leurs homologues masculins ou ont vu leur œuvre attribuée à tort à des hommes. Cette invisibilisation souligne l'importance de redécouvrir et de célébrer ces femmes qui ont contribué souvent, dans l'ombre, à l'enrichissement du patrimoine artistique. Alors la prochaine fois que vous flânerez dans un musée, laissez-vous porter par la douce mélodie de « Soir ouverture 76 » de Mel Boni et souvenez-vous que derrière chaque chef-d'œuvre, il y a une histoire parfois méconnue qui ne demande qu'à être racontée. Les femmes artistes du romantisme ont laissé des traces indélébiles de leur passage. Il est grand temps de leur rendre hommage.
Waouh,
wow, c'était super. C'est beau être clarissant.
Un petit peu, ça, ouais, c'est l'amour, ça, quoi. C'est le love. C'est...
Tu peux nous en donner un peu, s'il te plaît ?
Ce qu'elle vient de faire.
C'est vrai. Ce que tu es en train de dire, ça me fait penser. Récemment, j'ai lu l'autobiographie de comment ça s'appelle, Camille Claudel, qui était l'assistante de Rodin. Moi, j'adore Rodin. Et en fait, je me suis rendu compte que sur plein de points,
Rodin, c'est un connard.
Oui, déjà voilà. De un et de deux, elle était très talentueuse et oui. Il avait même presque peur d'elle, de son talent, parce que il avait peur de qu'elle prenne sa place, quoi. Et ça l'a moitié rendue folle. Enfin, il y avait une histoire d'amour entre les deux. Et quand on va au musée Rodin à Paris, il y a les valseuses qui sont incroyables. Franchement, c'est une super artiste et c'était incroyable ce qu'elle a fait. Enfin, du coup, ça me fait penser à ça, qu'on a souvent tendance à penser à l'homme, alors qu'il y avait des femmes derrière et qui les ont beaucoup inspirées, qui les ont même beaucoup aidées.
Comme dans tous les domaines, malheureusement.
Au final,
etc. Beaucoup de femmes, finalement, qui sont à l'origine du monde.
Elles sont partout.
Voilà.
Juste, si je puis dire.
Juste, vous, vous demandez pas à la police pour porter un pantalon.
Ah ouais.
Tu demandes toi?
Bah ouais.
Ah bah non.
T'as déjà pris une amende et tout?
Ouais, je te jure.
Oh, merde. Ah, après, on va faire attention maintenant.
Ça, c'était en Bretagne. Conseil, madame.
C'était peut-être
parce qu'il
y avait...
Ah, c'est en Bretagne, d'accord. Voilà. Bon alors, est-ce que vous vous êtes bien amusés?
All right.
Ouais, c'était trop cool. C'était hyper cool. Mm-hmm. Vraiment, c'était du bien de reprendre le micro, un peu d'être tous ensemble,
ça
quoi.
Manquille.
Une famille, finalement.
Voilà, une grande famille.
Une grande famille. Bah parfait, donc chers auditeurs, chères auditrices, on espère que ce premier épisode de Culture il vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
À bientôt sur Radio Création.
Tous ensemble.
All right. Woo! Bisous.
Et merci à la régie, bien évidemment.
Ouais, merci Marie.
Quelle star.
Tu es complètement con ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin.
C'est Radio Création, les directs.
Et à ma mère, maman j'ai pas le bac mais j'ai mon César, merci beaucoup tout le monde, au revoir.
Je veux faire un bon gros battle de rap à l'ancienne avec un gars pour annoncer mon premier album, de l'Oscar à la Bicrap.
Radio Création, les directs.
Bonjour, ça va ?